plus proches tranchées sont au moins à 50 mètres. Enfin, théoriquement, et à quelques mètres près. Et on sait aussi que, dans ces tranchées, il y a des types qui ont autant la trouille que toi et moi et autant sommeil. Des gars qui n'ont pas plus envie que nous d'aller au casse-pipe et qui attendent eux aussi la relève. Alors pourquoi veux-tu qu'ils viennent? Allez, dégage maintenant. N'empêche, si j'entends ce même bruit là-bas, juste devant moi, j'en vois une éclairante. On saura au moins à quoi s'en tenir, prévint le jeune en s'éloignant. Qu'il fasse ce qu'il veut, pensa Jean. Après tout, personne ne peut savoir quel sera le résultat. Pas plus que ce pauvre Édouard ne pouvait deviner que sa décision le tuerait aussi sûrement que s'il s'était mis une balle dans la tête. Pauvre Édouard, pauvre vieux frère, mon Dieu, c'est pas croyable ce qu'il me manque, se dit Jean, en se reprochant une fois de plus de ranimer ce souvenir si poignant. Bon Dieu, à quoi ça tient la vie? À rien? À un détail? Une connerie quelquefois? Ou une gentillesse? Un dévouement comme celui d'Édouard? Parce que nom de Dieu, bon Dieu, ce 18 novembre, tiens, ça fait juste un mois avant-hier, oui, ce 18. C'était pas à lui d'être de corvée de ravitaillement. Lui et moi, on l'avait été la veille, quand on était dans le village de Flaucourt, pas loin d'ici. Un coin pourtant presque peinard, tranquille, du moins en ce qui concernait les assauts. On était là-bas pour remettre les tranchées en état, un peu comme ici, quoi. Et si ces enfoirés de Fritz ne nous avaient pas canardés à coups de 210 depuis les positions qu'ils tiennent au Mont-Saint-Quentin et à Éterpigny, à plus de 5 km de nous, on se serait presque cru au cantonnement et au repos. Sauf qu'on était déjà dans la boue et qu'il pleuvait autant qu'aujourd'hui. Oui, mis à part les salves qui arrivaient un peu trop souvent pour nous rappeler qu'on n'était pas à l'abri des pruneaux, on était tranquille. On avait fini de consolider et de nettoyer notre portion de tranchée, et on était en train de taper la belote dans notre coin avec Édouard, Charles et André. Lorsque le sergent, cette andouille de Flekelny, est venu rappeler que les gars de corvée devaient aller chercher la bouffe pour midi. La corvée de soupe, ça a toujours été un piège à con. Parce que, pas fous les cuistots, ils font comme les artilleurs, ils s'installent toujours loin des premières lignes, le plus loin possible. Alors pour les rejoindre, il faut, 9 fois sur 10, sortir des tranchées et galoper tant bien que mal jusqu'à eux. Et là, dans le secteur de Flaucourt, il y avait plus de 600 mètres à faire au milieu des trous d'obus pour atteindre la roulante. Déjà, la veille, avec Édouard, on avait foutu presque toute la tambouille par terre en revenant avec nos bouteillons. Parce qu'en entendant le sifflement que fait un 210 en tombant, je défie quiconque de ne pas se jeter dans le premier trou qu'il trouve, même s'il est plein de flotte et de macabées. Et c'est ce que nous avons fait avec l'ami Édouard. Et le rata des copains, terminé. Enfin, presque tout. Ils ne vont pas être contents, les poteaux, m'a dit Édouard, quand on est sorti de notre trou. Il ne reste plus rien. Ah si, quand même, juste un peu de Saint-Jean-Sauce. Dame, il a pris un chouïa de boue en plus. Mais ils feront avec. Nous deux, on s'en foutait un peu, car il faut bien que d'être de corvée de ravitaillement ait un petit avantage. Avant de revenir avec la ration des copains, on mange aux cuisines. C'est pas meilleur, mais au moins c'est chaud. Et si le cuistot n'est pas un salaud, il y a toujours du rab. Enfin, ce jour-là, à cause de ce foutu obus, on n'a pas rapporté grand-chose. Mais bon, c'est la routine. Oui, la veille de ce maudit 18 novembre, on était de corvée de ravitaillement, Édouard et moi. Alors personne ne saura jamais ce qui lui a pris à Édouard de prendre la place de Charles le lendemain. D'accord, Charles Vial aussi est un bon copain. Il est de Saint-Hilaire-les-Courbes, les Courges, comme on dit par chez nous. Un pays perdu, au-dessus de Trégnac. Je n'y ai jamais mis les pieds, et d'après ce qu'il nous en a dit, il n'y a pas d'obligation à le faire, parce que c'est quasiment aussi perdu que la Courtine. Mais enfin, bon, c'est un brave, Charles. Il est de la deux, comme moi, et paysan comme beaucoup dans la section. C'était lui qui était de corvée ce jour-là, lui et André Mouly. André, il était épicier à Argentat, un bon copain de la Troie. Il avait 4 gosses. Saloperie de malchance. Mais bon, C'est vrai que personne n'a obligé mon vieux pote Édouard à être volontaire. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il était brave, Édouard. Un frère pour moi qui n'en ai jamais eu. Il m'aurait donné sa chemise si je le lui avais demandé. Il était toujours prêt à rendre service, à croire que ça lui faisait plaisir. Et ce jour du 18, j'entends encore ce vilain con de Flécalny qui débarque et engueule Charles et André parce qu'ils auraient déjà dû être partis vers les cuisines. C'est vrai qu'ils avaient un peu traîné parce qu'ils gagnaient. Ils étaient partenaires. Et ce matin-là, ils avaient un jeu d'enfer. Avec Édouard, on était bien partis pour finir capot. Et l'autre abruti arrive et gueule pire qu'un goré concastre. « Nom de Dieu, Moulier Vial, je vais vous foutre un rapport au cul. Vous devriez déjà être revenu avec le repas. » J'entends encore Charles qui rigole en faisant voir son pied bandé. Il avait reçu un petit éclat la veille, et s'il n'était pas dispensé de garde, le major lui avait dit de ne pas trop marcher. D'ailleurs, il ne pouvait pas. Enfin, pas beaucoup. Et pas vite. « Et alors ? Tu crois que c'est moi qui vais y aller à ta place ?» a gueulé le Serpate. « Non, mais moi je peux pas y aller non plus. Ou alors il va me falloir 10 fois plus de temps pour ramener le rata. Il risque d'être plutôt froid à mon retour. » C'est alors qu'Edouard a posé ses cartes. « De toute façon, a-t-il dit, aujourd'hui j'ai un jeu de merde. Sûr de sûr que ma France est mes fidèles. C'est pas comme vos femmes, les gars. Vous avez un pot de cocu. À mon avis, à cette heure, vos petites sont au lit sous un matou et les jambes en l'air. » S'est-il amusé en regardant Charles et André. « Bon, j'y vais à ta place, Charles. À charge de revanche, quand j'aurai comme toi la chance d'avoir une petite blessure qui permet de couper aux corvées. Tu viens, André ? Si on attend trop, le sergent va nous faire une syncope. » Il était comme ça, Édouard. Je l'ai toujours connu comme ça. Déjà, pendant notre service au 14e de ligne, il était toujours prêt à aider les copains, toujours. Ensuite, quand il a eu épousé Francette et qu'il est devenu notre plus proche voisin, il a toujours été le premier à venir lorsque j'avais besoin d'un coup de main pour rentrer les foins ou les moissons quand l'orage menaçait, ou encore pour m'aider à battre au fléau avant que Tessandier, l'entrepreneur, n'arrive avec sa batteuse. Et il est aussi venu quand j'ai replanté la vigne en 1907, quand le phylloxéra a eu tué le dernier vieux plant. C'est avec lui qu'on a défoncé le terrain à la main, sur 50 cm de profondeur, et qu'on y a mis les plants américains. Édouard a toujours été là quand j'avais besoin d'aide. Édouard qui m'a laissé seul, comme un âne. Il était de Perpesac le Blanc. Je n'ai jamais encore mis les pieds dans ce pays, mais sûr de sûr, si je réchappe à ce putain d'enfer, j'irai là-haut. J'irai voir sa mère. Je sais qu'elle vit encore, la pauvre. J'irai, et je lui dirai que mon ami Édouard était le meilleur du monde, et qu'elle peut être fière de lui. Et je le dirai à tous là-bas, à tous ceux de Perpesac. Je leur dirai qu'il ne méritait pas de mourir aussi connement, parce qu'il était le meilleur. Oui, ils le sauront tous qu'il était mon ami. Ah, nom de Dieu, que tout ça est fou! Pourquoi est-il parti, lui, alors que des pourritures comme l'adjudant Vélérou et des andouilles comme Flécalny sont toujours là et en bonne santé? Pourquoi lui et pas eux? Et pourquoi lui et pas moi? Qui c'est qui décide de tout ça? Édouard, mon vieux pote. Je le revois s'éloignant dans la tranchée. Il rigolait avec André. Il faut dire qu'André avait toujours des blagues à sortir. Je ne sais pas où il allait les chercher, mais elles venaient toujours au bon moment. Avec Charles et quelques autres copains, on les a vus partir. Ils ont d'abord suivi la première tranchée, puis sont sortis sur les champs défoncés pour galoper vers les cuisines. C'est alors qu'on a tous entendu miauler les obus de 210. Ils sont alors arrivés par paquets de 3. Un court, un long, un obus. Parce que les artiflots Bosch voulaient régler leur tir avant d'envoyer la purée par 12 ou 15. C'est moi qui, le premier, ai passé la tête au-dessus du parapet de la tranchée. Et là, je n'ai pas tout de suite compris pourquoi, malgré le tir, Édouard et André continuaient à courir vers l'arrière. À courir vite, mais pas assez. Parce que je l'ai entendu arriver, cet enfoiré d'obus, presque vu. Il est passé au-dessus de nous, avec ce bruit qui ne trompe personne, le carton qui se déchire. Là-bas, à 200 mètres,